Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal Pierre Veille. Bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. La France réussit son entrée dans la Coupe du Monde de rugby en battant ce matin l'Argentine 23-21. Victoire à l'arraché. Dans un instant, Jérôme Val à Tokyo et l'analyse de notre consultant, l'ancien demi de mêlée Guy Akosseberi. Nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, des manifestants dispersés ce matin à Paris sur les Champs-Élysées et près de la gare Saint-Lazare, 90 interpellations. Manifestation aussi pour la défense du climat dans plusieurs villes de France, 15 000 personnes dans les rues de Lyon, reportage dans ce journal. Édouard Balladur et François Léotard menacés d'un procès devant la Cour de justice de la République, les suites de l'affaire Karachi et des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. En 1995, explication de Jean-Philippe Deniau. En Grande-Bretagne, le Parti travailliste en congrès est toujours à la recherche d'une position claire sur le Brexit. Le conseil culturel du week-end avec Stéphane Capron. Une pièce d'Agatha Christie au théâtre de la Pépinière à Paris, La Souricière.
France Inter.
Le 15 de France a donc pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby en battant ce matin à Tokyo l'Argentine 23-21. Jérôme Val est avec nous en direct à Tokyo. Bonjour Jérôme.
Bonjour Pierre.
Alors Jérôme, ce fut juste, mais c'est gagné après un gros suspense.
Oui, en finale à suspense, des frissons dans ces dernières minutes. Et on se demandait, Pierre, mais comment le 15 de France avait pu se mettre dans un tel pétrin après une première période idéale, un avantage de 17 points à la pause grâce à deux essais marqués en 4 minutes, Gaël Ficou et Antoine Dupont qui ont parfaitement lancé des bleus en pleine réussite. Et puis ce bel édifice, c'est comme souvent avec cette équipe de France trop inconstante, fendillée au retour des vestiaires. Les Argentins complètement ragaillardis ont enchaîné 18 points de suite, 2 essais, 2 pénalités. Les Pumas passent devant au score pour un petit point et c'est l'expérimenté Camille Lopez qui à 9 minutes de la fin passe un drop salvateur. Alors après des mois et des mois de disette, après tant de déceptions, personne ne va bouder son plaisir dans cette entame de Coupe du Monde, mais les questions sur le réel niveau des Bleus sont encore nombreuses. Trop nombreuses pour nous rassurer totalement. Alors ces Bleus ont maintenant 12 jours pour trouver des remèdes avant leur deuxième rendez-vous dans ce mondial. Ce sera le 2 octobre face aux États-Unis à Fukuoka dans le sud du Japon.
Jérôme Val, autre match en ce moment, une affiche alors prestigieuse, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande.
Exactement, c'est une très très belle affiche, presque une finale avant l'heure. Et pour l'instant, avantage aux Néo-Zélandais qui mènent 17-10. La machine néo-zélandaise qui s'est mise en route en première période. Les Néo-Zélandais très impressionnants, mais attention, les Sud-Africains réagissent bien. Et en tout cas, ce match dont on attendait beaucoup tient toutes ses promesses. Et c'est peut-être l'affiche d'une prochaine finale le 2 novembre, toujours à Yokohama.
Merci Jérôme Val en direct à Tokyo. En ligne avec nous maintenant notre consultant, le consultant de Radio France, de France Inter durant cette Coupe du Monde de rugby, Guy Akosseberi. Bonjour.
Bonjour Pierre.
Ancien demi de mêlée de l'équipe de France, 19 sélections, vainqueur du Grand Chelem en 1997. Alors cette équipe de France ce matin, comment l'avez-vous trouvée ?
Alors, bien sûr, je l'ai trouvé mieux que pendant le tournoi Destination. On sentait que cette équipe est, on sent qu'elle est à l'évolution depuis l'arrivée de Fabien Galthié dans le staff. Elle a prouvé encore aujourd'hui. Je crois qu'on était peu à y croire à la fin du tournoi. Enfin, être capable de battre les Argentins, ça paraissait une montagne à franchir. Mais là, l'équipe a vraiment prouvé sur ce match qu'elle avait progressé. Le fait d'inclure pas mal de jeunes dans cette équipe a un peu, je dirais, bouleversé les lignes. Et on sent une équipe qui est plus basée sur le jeu. Elle a bien montré en première mi-temps. Elle a marqué deux très beaux essais. Et après, elle est retombée dans ses travers, comme l'a dit Jérôme. Et une deuxième mi-temps plus approximative, des fautes, la conquête un peu moins performante. Et puis les Argentins qui ont réagi aussi, parce que l'Argentine est une belle équipe. Et ça se joue sur le beau geste technique de Camille Lopez en fin de match. Donc voilà, la victoire était précieuse, était très importante. Elle est là, donc l'équipe de France peut maintenant se concentrer sur les deux matchs à venir avant d'affronter l'Angleterre pour le dernier match de poule.
Alors Guy, on peut dire que la première période était quasiment parfaite et puis il y a eu cette deuxième mi-temps beaucoup plus faible. Comment expliquez-vous cette baisse de régime de l'équipe de France ? Est-ce qu'on peut dire que peut-être le 15 de France est physiquement un peu court dans cette, pour cette épreuve physique de Coupe du Monde ?
Non, je pense pas. Non, non. Surtout quand ils sont qu'à la première mi-temps d'une compétition. Non, je pense tout simplement les Argentins à la mi-temps ont réfléchi à comment ils allaient aborder la deuxième. Ils ont eu un jeu un peu plus restrictif. Ils ont moins tenté avec leurs trois quarts. Ils se sont surtout reconcentrés sur leur ligne d'avant. Nous ont marqué deux essais sur des ballons portés. Donc des choses très simples, mais qui nous ont bouleversés. Et c'est vrai qu'on les a aidés dans ce jeu-là, puisqu'on a été nous moins performants en conquête. On a fait beaucoup de fautes. Donc on a été pénalisé, ce qui leur permettait de venir jouer dans notre camp. Donc voilà, une équipe d'Argentine qui a été beaucoup plus performante en deuxième, une équipe de France qui a un peu perdu le fil du match, mais qui a su très bien réagir dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, moi non, sur le côté physique, je suis pas inquiet.
Alors quels sont les secteurs sur lesquels il faut travailler, il faut que l'équipe de France s'améliore avant les prochaines rencontres, notamment contre les États-Unis?
Alors, les États-Unis et les Tonga, les deux matchs à venir, je crois que contre ces équipes, l'équipe de France devrait avoir le ballon. Donc, il faut qu'elle continue à progresser dans le secteur offensif. Comme je disais, elle nous a montré de belles choses en première mi-temps, en marquant deux beaux essais. Donc, il faut, sur ces deux matchs-là, continuer à enfoncer le clou, répéter ses gammes pour continuer à progresser. Parce que si on veut gagner des matchs contre l'Angleterre ou un quart de finale, il faudra être très performant offensivement. Et puis après, gommer les détails, gommer des fautes, des fois un peu idiotes, s'améliorer encore en conquête. La mêlée a été performante en début de match et après a perdu le fil aussi. Donc voilà, il faut que la conquête devienne efficace à 100%. Donc il reste voilà ces deux matchs-là pour continuer à faire évoluer tout ça, ça laisse un peu de temps. Et puis surtout, après, il y aura une belle finale à jouer contre les Anglais pour le dernier match de poule.
Voilà, donc vous y croyez au début de cette compétition. On disait la France n'ira pas très loin. Ce matin, on peut dire que tout est changé, qu'on peut avoir de grands espoirs pour la suite de cette Coupe du Monde au Japon, Guy Akosseberry.
Alors de grands espoirs, non, je n'irai pas jusque là. Je dirais des espoirs de sortir de cette poule, de jouer les phases finales, ce qui n'était pas gagné avant le début de la compétition. Après de là, envisager de rentrer dans le dernier carré, voire de jouer une finale ou de remporter un titre, il y a encore beaucoup de travail. Et je ne sais pas si les quelques semaines qui nous restent jusqu'au quart de finale nous permettront de combler le retard.
Merci Guy Akosseberry, consultant de France Inter, pour suivre cette Coupe du Monde de rugby au Japon.
France Inter, le journal de 13h, Pierre Veille.
La France et tout particulièrement Paris face à un samedi potentiellement à risque entre marche pour le climat, acte 45 des Gilets jaunes, journée du patrimoine et manifestation contre la réforme des retraites. Face au risque de violence, le préfet de police à Paris a annoncé un dispositif de sécurité important avec 7500 membres des forces de l'ordre. Bilan de la matinée à Paris où des Gilets jaunes ont voulu manifester, 90 interpellations, 1249 contrôles, 104 personnes verbalisées parce qu'elles étaient dans des périmètres où les manifestations sont interdites. La police a dispersé des tentatives de rassemblement, notamment sur les Champs-Élysées, où vous vous trouvez en ce moment, Thibault Lefebvre. Bonjour.
Oui, bonjour Pierre.
Quelle est la situation actuellement sur les Champs?
Oui. Eh ben sur les Champs-Élysées, la situation est désormais plus calme. Après une bonne demi-heure d'échauffourée, gaz lacrymogène, une charge des forces de l'ordre et quelques interpellations. Mais les premières heures ont commencé plus tôt, au niveau de la gare Saint-Lazare, pas loin de la place de la Madeleine, là où les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous à 9h. Gilbert est arrivé hier de Montpellier pour participer au 45e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.
On a été repoussé par des grenades lacrymogènes au sein de la gare, donc il y a tout un groupe qui est rentré. Et donc ensuite, ils ont repoussé tout le monde, y compris les voyageurs, dans les allées de la gare. Bon, ils ont des matraques, ils ont des protections. Heureusement que notre seule arme, c'est les jambes pour courir. Là, on est bloqué, mais on va continuer à manifester. Vous pensez bien qu'on ne s'est pas déplacé de Montpellier pour rien. On est là, on va continuer à être là autant qu'il faudra.
Et pourtant, les manifestants étaient prévenus, car tous les rassemblements de ce matin ont été interdit par la préfecture de police et ça ne change pas grand-chose pour Nathalie. Cette secrétaire d'une cinquantaine d'années n'a pas manqué un seul samedi de manifestation.
Ils sont en train de nous gazer dès le départ de la manif et un gazage intensif. Mais ce n'est pas surprenant, de toute façon, même quand il est déclaré, ils nous gazent. C'est eux qui foutent le bordel, quoi qu'en pensent les gens. Et tout à l'heure, on a vu, ils ont chopé un petit papy par les pieds et ils l'ont traîné jusqu'à leur estafette. Vous trouvez que c'est normal ? C'est dégueulasse. Et la rue, elle est à tout le monde.
Et la rue est aussi aux manifestants pour le climat. Ils sont en train de se rassembler autour du parc de Luxembourg et les gilets jaunes sont bien décidés à les rejoindre. Beaucoup traversent actuellement la Seine avec un nouveau défi de taille pour les forces de l'ordre. Contenir les manifestants les plus violents qui essaieraient de profiter de l'effet de foule pour casser des vitrines.
Thibault Lefebvre en direct sur les Champs-Élysées avec les moyens techniques de Sandrine Malon et sur franceinter.fr, détails complets sur le dispositif de sécurité mis en place aujourd'hui dans la capitale. Autre manifestation pour le climat et la défense de l'environnement dans toute la France en ce samedi. Hier, les jeunes étaient mobilisés. En ce samedi, tout le monde est convié. 15 000 personnes ont manifesté à Lyon pour ce que le collectif Lyon Climat l'appelle une maniforestation. Les manifestants demande des arbres dans leur ville. Reportage Christophe Vincent.
À Lyon, c'est la maniforestation avec le slogan « Sève la planète » en écho au drame de l'Amazonie. Sur le parcours, le collectif Plein la vue colle des affiches anti-pub sur les abribus. Son président, Benjamin Badoir.
La métropole de Lyon veut nous mettre notamment des écrans numériques publicitaires dans les rues. Ces lignes rouges à ne pas franchir. Et on préfère évidemment des arbres à la place de ça, parce que les publicités, elles appellent à consommer sans arrêt. Les écrans numériques publicitaires consomment en eux-mêmes énormément d'énergie. On veut des arbres qui nous font respirer et qui donnent un cadre de vie beaucoup plus agréable que des appels à consommer pour aller à l'autre bout de la planète en avion ou acheter une nouvelle voiture tous les trois jours.
Les manifestants taclent aussi la ville qui installe des bacs de fleurs sur une artère majeure. Thomas Dossu, militant vert.
Gérard Collomb, il avait prévu de rénover la presqu'île, mais il avait oublié de mettre de la verdure. Donc en fin de mandat, il s'est dit on va mettre des pots de fleurs pour compenser l'absence complète de vision végétale de la ville. Et du coup, il a mis des pots de fleurs, mais sur les pistes cyclables et sur les couloirs de bus. C'est-à-dire que maintenant, sur cette rue qui est assez étroite, il n'y a plus que les véhicules de livraison et les voitures qui peuvent circuler.
On l'a compris, l'écologie sera au cœur des prochaines municipales. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et à Paris, une marche pour le climat et la justice sociale aura lieu cet après-midi à l'appel de nombreuses ONG, dont le mouvement ATTAC. Les organisateurs espèrent une forte mobilisation, même si la manifestation des écoliers et lycéens hier sur le climat n'a réuni qu'un peu moins de 10 000 personnes dans la capitale. Alors sur les raisons de cette manifestation, Maxime Combe, un des porte-parole du mouvement ATTAC, il est économiste, au micro de Célia Cliret.
Il faut voir la réalité du mouvement climat aujourd'hui. C'est plus de 4 millions de personnes qui ont manifesté à l'échelle mondiale. Dans 163 pays, on fait face à une massification sans précédent du mouvement pour le climat et également un profond renouvellement dans ses formes d'action, dans ses pratiques. Les gens ont manifesté un vendredi avant de manifester un samedi. Et donc du coup, l'enjeu effectivement, et pas simplement à Paris aujourd'hui, mais dans toute la France, c'est de s'assurer qu'il y ait des jonctions et que le message qui soit envoyé à l'opinion publique soit de dire fin du monde, fin du mois, même combat. Pour résoudre la question écologique, nous avons besoin de politiques sociales et de réduction des inégalités. Nous avons aujourd'hui besoin de financements pour lutter contre le réchauffement climatique, aussi bien en France qu'à l'échelle internationale, qui sont bien plus importants que ce que nous avons sur la table. Et le sommet pour le climat organisé par l'ONU ce lundi va en faire l'amer constat. On est très très loin des 100 milliards qui avaient été promis par les pays riches pour financer la lutte contre les dérèglements climatiques. Très clairement, le néolibéralisme, très clairement les multinationales préfèrent rémunérer les actionnaires, se soustraire à l'impôt, plutôt que financer à travers l'impôt la lutte contre les dérèglements climatiques.
24 ans après la présidentielle de 1995, un procès se précise pour Édouard Balladur dans le cadre du financement illégal de sa campagne et pour son ministre de la Défense de l'époque, François Léotard. Le procureur général de la Cour de cassation a signé un réquisitoire en ce sens pour les deux hommes, aujourd'hui âgés de respectivement de 90 et 77 ans. Jean-Philippe Deniau, bonjour.
Bonjour Pierre.
Au centre du dossier, la découverte de fonds secrets issus de la vente d'armes au Pakistan, et cela après l'attentat de Karachi en mai 2002. 15 personnes avaient été tuées, dont 11 employés français de l'ancienne direction des chantiers navals.
Oui, des fonds secrets issus de commissions et de rétro-commissions. Les enquêteurs ont ainsi découvert qu'en 1995, à la fin de la campagne présidentielle, alors que les comptes du candidat Balladur sont dans le rouge, l'équivalent d'1,5 million d'euros en petites coupures de billets de 500 francs neufs atterrit dans les caisses. L'argent a été débloqué quelques jours avant dans une banque suisse via plusieurs intermédiaires, dont Ziad Takieddine. Édouard Balladur Premier ministre à l'époque affirme que cet argent est issu de dons de militants du Parti Républicain, mais cette somme est nécessairement frauduleuse, conclut donc aujourd'hui le parquet général de la Cour de cassation en demandant un procès, à la grande satisfaction de l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi, maître Olivier Maurice, joint par Armel Balogog.
Depuis le début de cette affaire, les familles ont le sentiment qu'on leur cache la vérité. Eh bien, s'il y a un renvoi devant la Cour de justice de la République, ce sera à tout le moins la démonstration que la plainte qu'elles avaient déposée était particulièrement pertinente. Pour autant, ce que nous aurions souhaité, c'est qu'ils soient en réalité jugés comme des hommes ordinaires, même si leur fonction était extraordinaire.
Et le procès des hommes ordinaires de l'affaire Karachi s'ouvre en effet le mois prochain devant le tribunal correctionnel de Paris, sauf pour Édouard Balladur et François Léotard. Donc, parce qu'ils relèvent de la Cour de justice de la République, seront-ils jugés? C'est à la commission d'instruction de la CJR de le décider maintenant.
Jean-Philippe Deniau, ouverture aujourd'hui du congrès annuel des travaillistes du Parti travailliste au Royaume-Uni sur fond de Brexit avec un risque réel d'éclatement de la gauche. Plusieurs cadres et des milliers de militants veulent que le parti se positionne clairement contre la sortie de l'Union européenne. Mais Jeremy Corbyn, leur chef de file, refuse toujours de choisir son camp. À Londres, Antoine Gignot.
C'est une question de démocratie, explique Clive Lewis, député de Norwich. 90% des militants sont contre la sortie de l'Union européenne. Le Parti travailliste doit les soutenir. De fait, les adhérents du parti de gauche ont ces derniers jours déposé près de 80 motions dans tout le pays qui pointent le manque de clarté de la stratégie de Jeremy Corbyn. Après 3 ans et demi d'hésitation, le chef de file de la gauche considère désormais qu'un deuxième référendum est nécessaire, mais il refuse toujours de se positionner clairement pour ou contre le Brexit. L'an dernier, en surfant sur la débâcle de Theresa May, les travaillistes ont réussi à limiter la casse et à garder un semblant d'unité, mais les élections européennes du printemps dernier ont mis en lumière les dissensions. Le Labour n'a obtenu qu'un peu plus de 14,5% des suffrages en perdant des voix au profit des libéraux-démocrates. La gauche joue désormais sa survie politique. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Le conseil culturel, comme chaque samedi dans le journal de 13h, La Souricière, pièce mythique d'Agatha Christie, arrive en France au théâtre de la Pépinière à Paris, dans une mise en scène de Ladislas Chollat. C'est une pièce phénomène qui est entrée au Guinness Book des records. Elle est jouée sans interruption depuis des dizaines d'années à Londres. Un polar dans un manoir anglais avec des meurtres comme Agatha Christie savait si bien les raconter. Stéphane Capron a vu ce spectacle.
Radio Londres, les informations. Scotland Yard nous informe qu'un crime a eu lieu à Paddington.
La Souricière est d'abord une pièce radiophonique écrite en 47 en l'honneur de la reine Marie, la veuve du roi George V. Agatha Christie s'est inspirée d'un fait divers, la mort d'un jeune garçon décédé alors qu'il séjournait dans une famille d'accueil de fermiers dans la campagne anglaise. La version scénique est jouée à Londres depuis 1952, plus de 27 000 représentations devant des millions de spectateurs dont le metteur en scène Ladislas Chollat.
Elle est dans son jus, alors les acteurs vont changer parce que ça fait quand même 67 ans de représentation. C'est le même décor, c'est les mêmes costumes. Les Anglais viennent voir ça de manière traditionnelle. C'est comme on visite un musée, on va comme notre cantatrice Chauvin ou à la Huchette. Quand je suis allé voir ça, je me suis dit, oh là là, c'est peut-être un peu vieux, je sais pas, etc. Et puis je me suis dit, oh, en même temps, il y a un humour que je suis sûr qu'on peut trouver. Ce mélange des genres m'a plu. J'y ai rajouté des chansons parce que du coup, ça donnait un petit côté musical à tout ça. Et j'ai essayé vraiment d'hésiter en permanence entre la comédie, le drame et qu'on passe mettre d'un genre à un autre en permanence.
La version française de La Souricière est colorée, endiablée. C'est un vrai spectacle populaire, tout public, dont on ne vous racontera pas l'histoire. Depuis 1952, aucun spectateur n'a vendu la mèche et n'a dévoilé l'intrigue de ce qui se trame dans ce manoir anglais.
Voilà, et pour en savoir plus, il faut donc aller voir La Souricière dans la mise en scène de Ladislas Chollat à Paris, au théâtre de La Pépinière, conseil de Stéphane Capron. On termine en musique, toujours conseil culturel, avec le grand rendez-vous des pianistes de classique et de jazz à Toulouse. Le festival Piano aux Jacobins qui fête cette année ses 40 ans avec une programmation brillante. Ce samedi, une grande nuit du piano romantique avec Rameau, Bizet et Offenbach. Les Roses du Bengale, 6 valses sentimentales pour piano que vous entendez en ce moment. C'est au Cloître des Jacobins à Toulouse. Le festival se poursuit encore pendant une semaine. Les couleurs du ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Et voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Du très mauvais temps sur l'arc méditerranéen. Les pluies orageuses qui arrivent par la mer vont survoler le Languedoc, le Roussillon, les Bouches-du-Rhône. Puis ce soir et la nuit prochaine, toute la région PACA. Actuellement, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault sont placés en vigilance orange. Fortes précipitations, inondations et orages. Et à remarquer le vent d'est à sud-est très turbulent. Autre zone concernée cet après-midi par les précipitations à connotation orageuse, la façade ouest des Pyrénées remontant vers la Bretagne, mais là les averses seront faibles. Et puis sur une large moitié est du pays, persistance d'un temps sec et largement ensoleillé. Les températures comprises entre 20 et 24 degrés autour de la Méditerranée vont afficher 27 à 30 degrés sur les autres régions. Notez que demain, l'air sera sensiblement partout plus frais. Une zone de pluie suivie d'averses orageuses va traverser le pays d'ouest en est avec des précipitations souvent plus marquées dans le quart sud-est.